Bonsoir. J'espère que vous avez passé une agréable journée. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce 39e épisode de la mythologie. Apollon, dieu des oracles. Après avoir réclamé l'arc et la lyre à sa naissance, Apollon, dans l'hymne homérique qui lui est consacré, nomme son troisième domaine d'intervention. Je révélerai aussi dans mes oracles les desseins infaillibles de Zeus. Si Zeus et quelques héros comme Trophonios qui possèdent leurs oracles, Apollon est la principale divinité qui pratique cet art chez les Grecs. Il le déclare lui-même quand son frère Hermès essaie d'obtenir aussi le don de divination. J'ai engagé ma parole et juré par un serment redoutable que nul autre que moi, parmi les dieux toujours vivants, ne connaîtrait la volonté de Zeus au dessein profond. À partir de l'époque classique, tous les sites de grande envergure appartiennent à Apollon, à l'exception de l'oracle de Zeus à Dodone et, plus tard, de celui de Zeus Ammon à Siwa. Interrogé sur la disparition des oracles liés aux sources sacrées ou aux vapeurs émanant de la terre, Apollon répond « La terre elle-même s'entr'ouvrit et reprit les uns dans ses entrailles souterraines, tandis qu'une éternité infinie anéantit les autres. Mais seul Hélios, qui brille pour les mortels, possède encore, dans les gorges divines de Didyme, les eaux de Mycale et celles qui courent en bordure de Pytho, sous la montagne du Parnasse, et la rocailleuse Claros, bouche de la voix prophétique de Phoïvos. Le principal oracle d'Apollon est celui de Delphes, qui est probablement fondé entre 900 et 700 avant Jésus-Christ. Dès l'époque archaïque, Apollon delphien est omniprésent dans la vie des cités. Il approuve leurs lois, comme la grande Rétra de Sparte ou la constitution de Clisthène à Athènes, et donne sa bénédiction aux expéditions coloniales. Il apparaît dans les mythes héroïques comme celui d'Œdipe ou de Thésée. Les Jeux pythiques, en l'honneur d'Apollon, sont le concours public le plus important après les Jeux olympiques. À l'époque hellénistique, il conseille le Sénat romain. Après une période de déclin, au 1er siècle avant Jésus-Christ, le sanctuaire est détruit au 4e siècle par les chrétiens. L'homme est, par nature, imparfait dans sa connaissance, toujours incomplète, car lié au présent. Seuls les dieux possède la connaissance ultime qui embrasse à la fois le passé, le présent et l'avenir, comme Zeus, celui qui voit tout, ou son fils Apollon, l'autre grand dieu devin du panthéon grec. Ce dernier peut, En effet, percevoir les enjeux des événements qui échappent aux hommes sur Terre. Les paroles du centaure Chiron parlent d'elles-mêmes. Toi qui sais le terme fatal de toutes choses et tous les chemins qu'elles prennent, toi qui peux compter les feuilles que la terre fait pousser au printemps et les grains de sable que, dans la mer ou les fleuves, roulent les vagues et les souffles des vents, toi qui vois clairement l'avenir et son origine. Consultation d'oracle, mode d'emploi. La marche à suivre pour consulter le dieu était la suivante. Le consultant, qui ne pouvait pas être une femme, s'acquittait d'une taxe versée à une confédération de cités. Les consultations pouvaient être demandées individuellement ou collectivement pour une cité, par exemple. Le paiement d'une surtaxe ou des services rendus à la cité de Delphes permettait d'acquérir le droit de promancie, c'est-à-dire un privilège, une carte prioritaire, un joker. Celui de consulter avant les autres et ainsi de passer outre la liste d'attente qui pouvait être d'autant plus longue qu'on ne pouvait consulter la Pythie qu'un jour par mois. On menait le consultant dans l'Adyton du temple d'Apollon. Il y rencontrait la Pythie qui s'était purifié, avait bu l'eau de la fontaine de Castalie, de Delphes, et mâchait des feuilles de laurier. Celle-ci était installée sur un trépied. Le consultant offrait un sacrifice sanglant au dieu, lequel était conduit par les deux prêtres et leurs assistants. Nous espérons que ce n'était que des animaux. Effectivement, contrairement à l'homme, les bêtes n'ont pas cette appréhension de mourir. Préalablement, la victime était aspergée d'eau froide et, si elle ne tremblait pas, la prise d'oracle était annulée au risque, sinon, de tuer la Pythie. Car elle ne pouvait contredire ce signe du dieu qui donnait ou non son accord. Le consultant posait sa question à la Pythie, question que les prêtres avaient souvent remise en forme. La Pythie, enfin, rendait l'oracle du dieu qui parlait à travers elle. Cette réponse devait être rendue claire par les deux prêtres d'Apollon. D'après les témoignages, dont ceux de Plutarque, la Pythie n'était pas visible et l'on n'entendait que sa voix. La Pythie était en état d'enthousiasme, c'est-à-dire d'inspiration divine. La légende rapportait que des effluves magiques sourdaient dans le temple et qu'ils étaient responsables de l'état second connu par la Pythie. Selon des légendes, ces effluves auraient même poussé au suicide des bergers et de simples mortels qui les auraient respirés par hasard, avant que l'on destine à ce rôle dangereux la seule Pythie. Il convenait donc que celle-ci, pour recevoir l'inspiration divine, le pneuma, sans en souffrir, fût pure, vierge et mena une vie saine. Son esprit devait être disponible, calme et serein, afin que la possession par le Dieu ne soit pas rejetée au risque de la mener à la mort. Depuis la fin de l'Antiquité, plusieurs hypothèses ont tenté d'expliquer les prétendues transes de la prêtresse, mais les preuves concrètes ou textuelles ont toujours manqué. Alors, que disent les prophéties ? Nous en connaissons déjà certaines. Celle d'Égée, afin de mettre un terme à sa stérilité. La Pythie lui dit qu'il ne doit en aucun cas délier le col de son outre avant d'avoir atteint le plus haut degré d'Athènes. Et celle d'Oreste, revenant à Argos, accompagnée de Pylade pour exécuter la prophétie de l'oracle d'Apollon, venger son père en tuant Égiste et Clytemnestre, sa mère. Deux oracles célèbres d'Apollon. L'oracle de Crésus. Crésus était roi de Lydie en Asie mineure au VIe siècle avant Jésus-Christ, connu pour sa puissance mais aussi pour ses richesses. Grand conquérant, il alla un jour à Delphes consulter la Pythie, oracle d'Apollon, pour savoir s'il serait vainqueur d'une guerre qui l'opposerait aux Perses. L'oracle répondit « Si Crésus traverse la Lys, il détruira un grand empire. » Confiant, Crésus partit donc en guerre, pensant réduire en cendres le royaume de Perse. Mais, contrairement à toute attente, l'armée lydienne fut vaincue et Crésus fait prisonnier. Convaincu qu'Apollon s'était trompé, Crésus envoya un messager pour protester contre la Pythie. À son retour, le messager annonça à son souverain ce qu'on lui avait dit à Delphes. La Pythie ne s'était pas trompée et la prophétie s'était bien réalisée. Crésus avait mal interprété les paroles de l'oracle. Oui. Un grand empire avait été détruit. Ce n'était pas la chute de l'empire perse, cependant, mais bien celle de son propre empire que Crésus avait entraîné. Les dieux ne mentent jamais. Seule l'interprétation des prophéties est mauvaise. L'oracle d'Œdipe, pied enflé. Naissance et exposition. Avant la naissance d'Œdipe, Laios et Jocaste, ses parents, ont consulté l'oracle de Delphes qui leur a prédit que s'ils avaient un fils, celui-ci tuerait son père et épouserait sa mère. Un tel oracle laisse les parents tout à fait perplexes. Toujours est-il que Laios et Jocaste ont un fils, Œdipe. Mais ce n'est pas la fête dans la chaumière, c'est surtout comment se débarrasser du rejeton. De peur que l'oracle ne s'accomplisse, ils font exposer le nouveau-né sur le mont Citéron, après lui avoir percé les chevilles pour l'accrocher à un arbre. C'est de là que lui vient son nom, Œdipe, qui signifie « pied enflé ». Œdipe est, contre toute attente, sauvé et adopté par Polybe et Mérope, le roi et la reine de Corinthe, qui l'élèvent comme leur fils. départ de Corinthe et consultation de l'oracle de Delphes. L'histoire reprend lorsque Œdipe est un jeune adulte. Un homme accuse Œdipe, au cours d'un banquet, d'être un enfant supposé. Œdipe décide donc de partir pour Delphes afin de savoir de l'oracle si Polybe et Mérope sont bien ses vrais parents. Cependant, l'oracle ne répond pas à sa question et lui dit à la place ce qu'il avait dit des années auparavant à Laios et Jocaste, qu'il tuerait son père et épouserait sa mère. Effrayé, Œdipe décide de ne pas retourner à Corinthe pour éviter que l'oracle ne s'accomplisse. Il croit alors que Polybe et Mérope sont ses vrais parents. Rencontre avec le sphinx. En continuant sa route, Œdipe arrive à Thèbes. Y sévissait alors la sphinx. La sphinx est un être féminin, moitié femme, moitié bête, aussi appelée sphinge. On ne sait pas vraiment pourquoi Œdipe décide d'aller l'affronter. Il réussit à résoudre son énigme et donc à en débarrasser la ville. L'énigme posée était la suivante. Quel être a quatre pattes le matin, deux le midi et trois le soir? Il fallait répondre l'homme. Quand il est enfant, au matin de sa vie, il marche à quatre pattes. Quand il est adulte, il se tient sur ses deux jambes. Et quand il est vieux, au soir de sa vie, il a besoin d'une canne pour se déplacer. Bingo ! Pied enflé a le droit de continuer à jouer. Le parricide. Sur la route à un carrefour, Œdipe rencontre un vieil homme sur un char. Ils se disputent pour des histoires de priorité dans le passage et en viennent aux mains. Œdipe tue le vieil homme sans savoir qu'il s'agit de son père. La première partie de l'oracle est accomplie. Œdipe se défend toujours de ce crime. Il invoque la légitime défense et aussi surtout l'ignorance. L'inceste d'Œdipe, pied enflé. Comme récompense pour avoir vaincu la sphinx, Œdipe obtient le trône de Thèbes, laissé vacant après la mort du roi Laios, ainsi que la main de la veuve Jocaste, le second volet de l'oracle, est accompli. Œdipe et Jocaste ont quatre enfants, deux fils, Étéocle et Polynice, et deux filles, Antigone et Ismène. Bonjour papa, bonjour maman, nous sommes dans une configuration tuyau de poêle, mais laissons à Freud et Lacan le plaisir d'interpréter les aventures de pieds enflés. Ce que nous retiendrons, c'est que l'on rencontre des paroles énigmatiques que l'on croise au travers d'un poème, d'une chanson, d'une conversation, comme si elle sortait de la bouche d'une pitié à Delphes. Parfois, il faudra bien des années avant de comprendre le sens de certaines paroles. Bien évidemment, comment discerner les messages subliminaux des prédictions télévisées ou sornettes de médiums en tout genre? Le bon grain de l'ivraie ou de la graine grillée. Nous sommes dans le domaine du paranormal. Et même si nos esprits cartésiens dénient souvent les règles supérieures qui régissent le grand univers afin de se protéger de cataclysmes ou de douleurs terribles, les oracles de Delphes ont apporté sagesse et lucidité aux Grecs des temps anciens. Souhaitons que les Grecs contemporains aient hérité d'une once de cette sagesse. Il se fait tard et je pense que nous allons en rester là pour ce soir. Merci de rester fidèles à ces aventures. Nous venons de toucher le dernier épisode des aventures d'Apollon. Dans le prochain épisode, le 40e, nous parlerons de la belle Aphrodite qui fit chavirer tant de cœurs. Je me permets, avec les dieux de l'Olympe, de vous souhaiter une douce et agréable nuit.